Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Samedi 14 septembre, nous célébrerons la fête de la Croix Glorieuse. Que vient-elle célébrer et comment la vivre ? Éléments de réponse avec les invités de Radio Présence, tous trois membres de la communauté de la Croix Glorieuse. La fête de la Croix Glorieuse est célébrée chaque année le 14 septembre. Célébrer un instrument de torture sur lequel le Christ a été crucifié, n'est-ce pas un peu masochiste ? Pourquoi dit-on que la croix est glorieuse ? Élément de réflexion avec nos trois invités, frère Christophe par téléphone depuis son couvent de Perpignan. Bonjour frère.
Bonjour Isabelle.
Et en studio à mes côtés, Christophe et Muriel Sandrin, mariés et engagés dans la communauté de la Croix Glorieuse depuis 25 ans.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Isabelle.
Merci de vous rendre disponible pour nous préparer à cette grande fête de la Croix Glorieuse. Remontons 2000 ans en arrière, lorsque Jésus fut chargé de sa croix pour monter au calvaire, celle-ci n'avait rien de glorieux, c'était l'instrument de supplice le plus avilissant. Que signifie cette croix dans le contexte de la passion et de la mort de Jésus, frère Christophe ?
Mais plutôt que de partir de cet aspect-là, si vous voulez, je voudrais commencer avec une anecdote qui me semble bien résumer l'ensemble du mystère de la Croix Glorieuse plutôt que de le prendre par ce bout-là, si vous voulez. Et c'était jeudi dernier dans l'après-midi, je suis allé au centre pénitentiaire pour rencontrer un détenu qui avait demandé à me rencontrer. Et ce qui m'a frappé, c'est que donc ce détenu est revenu après quelques semaines en hôpital psychiatrique, et là il est revenu depuis un mois maintenant, et il a demandé à me rencontrer parce que il est en train de faire tout un chemin à partir, donc il est en détention, c'est-à-dire qu'il est seul en cellule, et le voisin, son voisin donc dans la cellule d'à côté est un de nos fidèles aux célébrations catholiques, et ce voisin a posé sur lui un regard de compassion. C'est-à-dire, il s'est rendu compte que l'autre était en souffrance, il est entré en relation avec lui, et tant et si bien que le second, donc celui qui est en souffrance là, s'est ouvert à ce que lui disait le premier, et qui lui a remis un petit missel mensuel, avec prière du matin, prière du soir, il s'est mis à prier, son cœur s'est ouvert, et puis maintenant il demande à me rencontrer, et ça me semble, et donc il est en train de se relever actuellement, et ça me semble condenser exactement l'ensemble du mystère, parce que pourquoi la croix ? Hein, pourquoi la croix glorieuse ? C'est parce que c'est, au fond, un mystère qui exprime la bonté de Dieu, parce que c'est un mystère qui récapitule l'ensemble du mystère du Christ depuis l'incarnation jusqu'à la Pentecôte. Hein, et pourquoi ? Parce que Dieu, dans sa bonté, désire sauver l'homme, mais ça commence par un regard de bonté. Hein, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et donc il y a toujours à avoir, si vous voulez, en toile de fond, cette bonté de Dieu qui éclaire tout. Et donc l'incarnation de Jésus, c'est justement parce que Dieu, dans sa bonté, veut sauver l'homme et non pas le condamner ou
le laisser dans son péché.
Et d'où Jésus qui partage toute la condition humaine et qui, justement pour la sauver, la sauver de la mort aussi, passe lui-même par la mort sur la croix après la passion, etc. Et puis il est ressuscité le troisième jour et il envoie l'Esprit Saint ensuite sur les apôtres et les disciples à la Pentecôte, et c'est la naissance de l'Église. Et c'est pour cela que, je terminerai avec cela, rassurez-vous, c'est pour cela que, pour nous, la Croix Glorieuse, communauté de la Croix Glorieuse, le passage de l'Évangile qui résume le mieux l'ensemble du mystère, c'est dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 19, verset 25-37, et c'est la scène du Christ en croix où tous les éléments nous sont donnés pour, au fond, comprendre cela du mystère, à la fois cette bonté, ce don total sur la croix et cette source de vie.
Alors, puisque vous parlez de cet évangile que nous entendrons, qui sera proclamé lors de la fête de la Croix glorieuse le 14 septembre, on peut lire ces phrases, hein, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Je vais redonner donner la parole à Muriel et Christophe Sandrin qui sont en plateau. Comment cet évangile résonne en vous, Muriel?
Alors, cet évangile a toujours résonné profondément en moi, parce que tout d'un coup, j'ai été mis devant la bonté de Dieu, et cette bonté est infinie. Il n'y a rien que je fasse ou que je vive qui me sépare de lui. Si ce n'est ma propre volonté de lui dire non, bien sûr, hein, parce qu'il respecte profondément ma liberté. Et comment je le sais? Ben, je le sais parce qu'il monte sur la croix pour moi. Il monte pour tous, mais aussi pour moi. Et c'est sa façon de me dire « je t'aime ». Il me le dit en donnant ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire sa vie. Et non seulement ça, mais il me convainc de le partager avec les autres.
Mmh. Christophe?
Oui, je vais compléter ce que vient de dire Muriel. Pour moi, je vis une vie relativement tranquille, puisque je sais que je suis sauvé. À chaque fois que je vais à l'Eucharistie, au moment de la consécration, je me dis, Seigneur, tu es mort pour moi, voilà ton corps offert et ton sang versé, pour moi, pour le monde, mais en particulier pour moi. Et donc à chaque fois, je me dis, bah oui, tu es pécheur, on commet un tas de péchés, mais au bout du compte, je suis sauvé. Et cela me permet d'être toujours dans une attitude positive, enfin d'espérance par rapport à la faute, même si ma faute peut être grande, mais ce n'est pas un empêchement. Je sais qu'au bout du compte, Dieu est miséricorde et me sauve. Par le fait qu'il est mort pour moi et il est ressuscité pour moi, pour me montrer le chemin.
Mmh. En fait, cette croix glorieuse, c'est un mystère à double visage. Il y a cet instrument de torture et puis il y a aussi cette victoire. Alors, l'un ne doit pas occulter l'autre. Comment justement donner sa juste place à chacune de ces facettes, frère Christophe?
Oui, mais c'est-à-dire que, au fond, la croix glorieuse, je dirais que c'est à la fois le révélateur et l'ostensoir de la bonté de Dieu. C'est-à-dire le révélateur en ce sens que, ben, voilà, ça veut dire « je t'aime jusque-là, je t'ai aimé jusque-là, toi personnellement hein, ». Puisque c'est pour tous les hommes, hein, c'est pour nous les hommes et pour notre salut, hein, comme on dit dans le credo. Et donc, « je t'ai aimé jusque-là ». Parce que je t'aime personnellement, donc non seulement pour te sauver, mais aussi pour te rendre participant de ma nature divine, puisque le mystère de la croix glorieuse donc, ne s'arrête pas avec la mort de Jésus, mais évidemment il est ressuscité le troisième jour, et à la Pentecôte, Jésus ressuscité envoie son esprit sur les apôtres et les disciples, c'est la naissance de l'Église, et c'est le commencement de la divinisation de l'homme, hein, qui, accueillant à l'Esprit Saint et témoignant donc de la vie de Jésus ressuscité, donc en parole et en acte.
Mmh. Vous voulez ajouter quelque chose, Christophe et Muriel, sur cette dimension de la souffrance qu'il ne faut pas occulter, et puis comment donner à chacune de ces facettes de la croix glorieuse sa juste place, Muriel?
Alors pour moi, c'est essentiel. Hein. C'est ce mystère, il est la croix et la gloire sont liés profondément. C'est essentiel de ne pas les séparer jamais, parce que si j'annonce que la croix, je suis dans un monde de désespérance et d'aridité et de faim, en fait. Si j'annonce que la gloire, je suis dans l'illusion, je suis dans un monde qui n'existe pas. Et non, moi, j'annonce la croix et la gloire ensemble, parce que c'est le mystère de mon Dieu.
Christophe ?
Oui, je vais dire que ce terme, cette expression « croix glorieuse », dans les premières années de ma vie communautaire, en remontant 30 ans en arrière, quand on commençait notre chemin, je disais, mais c'est quand même un drôle de nom qu'on a pris là. Associer la croix et la gloire, je bloquais un peu.
Ça semble paradoxal quand même.
Ouais. C'était vraiment paradoxal, voilà. Et c'était pour moi une source de grosse interrogation, presque de doute. Et j'ai cheminé, et à force de méditer, d'avancer sur la connaissance et l'approfondissement de ce mystère, je comprends mieux qu'en fait, c'est vraiment un chemin dans lequel chaque étape est absolument nécessaire, et qu'il n'y aurait pas de gloire s'il n'y avait pas la croix, et que c'est aussi ce que nous sommes invités à vivre aujourd'hui, à notre niveau, chacun bien sûr. Notre croix est toujours associée à la gloire, et à la gloire ultérieure éventuellement, parce que on peut pas dire à un souffrant bah tu souffres, t'inquiète pas, c'est normal, ça va aller mieux après. Je veux dire, la croix, nous pouvons la vivre. Jésus tolère que nous puissions la vivre, même si la souffrance est inexcusable, mais elle est indubitablement liée à la résurrection et la gloire.
Comment justement, je me tourne vers vous, frère Christophe. Alors, deux questions. On a parlé du mystère de la croix glorieuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on parle d'un mystère ?
C'est parce que c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais définir comme ça, dans une formule. Ça nous dépasse de partout, un mystère. Et au fond, c'est en le contemplant, et nous de manière privilégiée justement avec ce texte de Jean 19, 25-37, hein, cette scène, et c'est dans la contemplation de ce mystère, et attention, une contemplation qui débouche sur une action, hein, puisque sinon ça n'aurait aucun sens, hein, et que petit à petit, j'ai envie de dire, on l'expérimente. Et c'est au fur et à mesure de notre avancée dans cette expérimentation que on découvre des choses, mais le définir, on ne peut pas, c'est trop grand, c'est trop...
Ça nous dépasse.
C'est dur, quoi. Donc, ça nous dépasse vraiment de partout. Mais pour en revenir justement à cette expérimentation et la manière dont ça se vit, je reviens à la prison parce que ça arrive de temps à autre qu'il y ait une personne détenue qui fasse cette expérience de l'amour de Jésus pour elle. Hein, et donc parce que au fond, la plupart du temps, donc les détenus s'en veulent énormément
et
sont dans une grande souffrance, hein, parce qu'ils prennent conscience aussi de ce qui a déraillé et tout ça. Et donc ce qu'il y a de beau dont nous sommes témoins, nous les aumôniers, c'est quelquefois donc une personne qui fait l'expérience de cet amour dans sa cellule. Et ça m'est arrivé d'en trouver en larmes, me disant, je ne sais pas s'il y a un amour incroyable qui m'a traversé cette nuit, etc. Voilà. Et qui, ayant fait l'expérience de cet amour, de cette effusion de l'Esprit Saint, commence à changer. Et on voit tout ce chemin qui... D'abord, ils ont pris conscience que Dieu les aimait, donc de la bonté de Dieu, que Dieu ne les juge pas, mais que Dieu désire les sauver. Et ils prennent conscience, donc, que Dieu les met sur un chemin de vérité. Et donc, il y a la reconnaissance de la faute, il y a le désir de pouvoir demander pardon ensuite, et puis, il y a une paix qui les habite. Et j'en connais, donc, où il y a justement cet ensemble, la croix glorieuse, c'est-à-dire qu'il y a la souffrance qui est bien là, la souffrance de la détention, de la promiscuité, tout ça, mais qui est vécue dans la paix, d'une part, qui est vécue dans une démarche de relèvement aussi, la reconnaissance de la faute, et puis demande de pouvoir être pardonné, et puis, et dans l'espérance, parce qu'on sait que, justement, le Christ nous aime et que c'est un chemin de vie et qui va nous sortir, quoi, qui va nous sortir de là, de tout ce qui est mort, hein, pour nous conduire vers le royaume. Et c'est vraiment une expérience que je vois vécue par certaines personnes. Je prends l'exemple de la prison, mais c'est aussi dans le ministère, combien de personnes, nous voyons cela, qui découvrent cet amour fou de Dieu pour elles, et puis que ça met en route, et puis ça ne les empêche pas de vivre des épreuves comme tout le monde. Et il y en a ce cas, c'est que la grande différence est de les vivre dans la paix, dans la confiance en Dieu. Et je crois que d'ailleurs, le plus beau des témoignages, c'est celui de ces personnes que nous connaissons, de grands malades ou des personnes dans des situations qui traversent des épreuves très très difficiles, mais qui sont paisibles, qui sont dans l'espérance, et où il y a une joie mystérieuse au-delà de la souffrance physique ou morale.
En préparant cette émission, Muriel Sandrin, vous me disiez que il y avait parfois cette tentation d'occulter notre propre faute, notre propre péché. Et quel est le lien avec la croix glorieuse?
Alors c'est vrai que, alors si je prends notre monde à nous, qui est un monde occidental, on est quand même tous les uns les autres rassasiés d'une certaine façon. C'est-à-dire, il y a toujours des gens qui manquent, bien sûr, mais enfin, la majorité des Français ne manquent pas, en fait. Ils ont à manger, ils ont une vie, enfin, ils ont plein de choses. Et ce côté de rassasiement, parfois enlève. Et puis, le fait qu'on vit des vies bien, on se
Confortable.
sent bien, on se sent bien, on se sent juste aussi, hein. On se sent, voilà, ma vie, je l'ai bien vécu, enfin, on entend souvent ce genre de propos. Et du coup, on ne perçoit plus le salut. Parce que si tout est bien, je n'ai plus besoin d'être sauvée.
On ne perçoit pas notre pauvreté et donc on ne perçoit pas
Oui, tout à
la
fait.
nécessité du salut.
Et parfois, en France, il y a plein de croix partout, mais on finit par occulter ce qu'elles représentent. Et ce qu'elle représente de souffrance pour le Christ d'être monté, et que si il prend ce chemin, qui est un chemin innommable, ce n'est pas pour rien, c'est pas pour se faire plaisir, c'est qu'il y en a vraiment besoin, et que nous avons besoin du salut, et que pour passer à la résurrection au royaume, nous avons tous besoin du salut, et tous nous portons une faute. Alors parfois, on n'en a pas du tout conscience. Mais si je prends juste notre passivité vis-à-vis de tous les événements autour de nous, vis-à-vis par exemple des traversées de la Méditerranée, de la mort de tous ces migrants sur la mer qui ne nous fait rien, je dirais, mais quelle faute! Et je crois que c'est important de percevoir le drame du mal, le scandale du mal. Et donc, notre Dieu, justement, remédie à ça. Il nous donne de traverser le mal, il nous donne d'avoir cette espérance du salut et cette espérance du royaume, et pas que pour nous, pour tous.
Pour le monde, Christophe, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je reviens sur les croix qu'on trouve partout. C'est vrai que il n'y a pas un village, même un hameau, il n'y a pas une croix. Même dans des chemins, dans la campagne, on trouve des croix. On aurait tendance à passer devant sans les voir. Mais elles sont vraiment, pour moi, le témoignage que l'espérance n'est pas morte et que les gens qui ont posé ces croix croyaient quand même que ça avait un sens et que ça avait un sens dans la durée et je dirais même pour l'éternité. J'étais surpris, j'ai marché sur les chemins de Compostelle au printemps dernier et j'ai dans des petites communes de quelques centaines d'habitants, il y a une église entretenue, quelquefois magnifiquement décorée. Et je me dis quand même que vraiment le Christ est présent partout, même si l'homme ne le regarde pas tellement ou peu, enfin. Et que comment dire, l'humanité a quand même conscience que la croix, c'est pas seulement la souffrance, mais c'est aussi l'ouverture d'un chemin vers la vie. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans les cimetières, on met une croix. Comme symbole, premier symbole, on met une croix. D'ailleurs, dans d'autres religions également, il y a cette notion, mais enfin, pas la croix du Christ, bien sûr. Et si on met cette croix sur une tombe, c'est parce que pour nous, c'est quand même un signe. En attendant la résurrection des morts, voilà, il y a cette croix qui le rappelle.
signe de l'amour infini de Dieu pour chacun et de la victoire sur la mort. Je vous propose de marquer une pause musicale. Nous écoutons « Ta croix est notre gloire », interprété par le chœur liturgique de l'abbaye de Sylvanès.
Présence.
Vivante Église, Isabelle Duché.
La fête de la Croix Glorieuse est célébrée le 14 septembre. Comment est-elle fêtée au sein de la communauté du même nom? Comment peut-elle éclairer nos apostolats? Témoignage des frères et sœurs de la communauté de la Croix Glorieuse, frère Christophe à Perpignan, Christophe et Muriel Sandrin à Toulouse. Alors, d'abord, je voudrais vous demander, Christophe et Muriel Sandrin, comment vous célébrez cette fête qui est quand même pour vous le clou de votre communauté, la fête par excellence de votre communauté?
Christophe. Alors, nous avons deux phases, deux temps pour la célébration de cette fête. La veille au soir, c'est la célébration des vigiles, et le jour même, le 14 septembre, la grande messe, la grande Eucharistie pour fêter donc la Croix Glorieuse. Les vigiles, c'est beaucoup de psaumes, c'est très chanté. Et puis la célébration, l'Eucharistie, c'est la liturgie que chacun connaît, avec quand même cette remarque que les chants que nous prenons ou les psaumes que nous disons, nous ne les prenons pratiquement qu'à ce moment-là. C'est quand même un côté exceptionnel dans lequel la communauté entière est rassemblée. On est tous habillés, enfin les laïcs en blanc et les religieux en habit. Et tous ensemble, donc réunis devant, autour du chœur, enfin, et pour la célébration eucharistique autour de l'autel, tous nos prêtres, et voilà. Donc tous ensemble, dans une communion qui souligne la dimension communautaire, la dimension fraternelle de notre
et d'unité
relation,
aussi,
et
alors.
D'unité de la communauté, tout à fait. Et tous tournés vers la croix, qui à ce moment-là davantage la gloire que la croix, évidemment, pour eux. C'est très joyeux comme célébration.
C'est très joyeux parce que, en fait, nous célébrons aussi le salut, enfin l'espérance du salut. Donc, nous célébrons la croix parce que c'est le plus grand amour que Dieu pouvait nous montrer par là même. Et puis, nous avons cette joie du royaume, en fait. Nous sommes déjà dans le royaume. Hein. Dans notre communauté, nous avons une hâte du royaume. Et donc, oui, et puis, Christophe disait, nous sommes ensemble. Dans notre communauté, la communion, c'est quelque chose d'essentiel. D'abord parce que tout seul, nous ne pourrions pas être au pied de la croix. Heureusement, nous avons la Vierge Marie à nos côtés.
Qui était elle aussi au
qui,
pied
elle,
de la croix.
Qui, elle, est au pied de la croix et qui nous entraîne aussi au pied de la croix. Et c'est pour ça qu'on a une dévotion particulière à la Vierge Marie aussi. Et donc, être ensemble à fêter l'amour inconditionnel du Christ pour chacun de nous et pour tout homme, et puis le vivre dans l'Eucharistie, donc c'est communier à lui dans ce mystère-là, ben ça peut être que de la joie en fait. Et donc, c'est vrai que notre communauté est très joyeuse, hein, et nos chants sont très festifs, et nous allons vraiment nous embrasser, rire ensemble, voilà. Parce que c'est ça, nous traversons, en fait, nous traversons la mort. Mmh. Bien sûr, entre guillemets, hein,
oui,
c'est,
oui, oui.
Voilà. Et je pense que ce qu'il y a quand même de plus beau dans la religion chrétienne, c'est cette espérance. Voyez, on est sans cesse dans l'espérance parce que le salut a triomphé de tout. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a au cœur.
Alors, on va voir justement comment cette espérance anime vos apostolats. Mais juste avant, une petite précision, puisque pendant cette messe de la Croix Glorieuse le 14 septembre, vous prononcez des vœux, ou comment on dit, vous renouvelez des vœux?
Alors oui, pendant la messe, il y a des engagements définitifs. Donc, on a une sœur qui va faire ses engagements définitifs cette année. Donc on va la fêter particulièrement, et puis certains d'entre nous fêtent leur jubilé. Donc c'est aussi une façon pour elle, c'est vraiment là, elle fait le pas de donner sa vie au Seigneur complètement, et en sachant très bien que elle s'engage dans ce mystère de la croix glorieuse, voilà, et qu'avec le Seigneur, ben elle va le vivre. Et que, soutenue par la Vierge Marie, eh ben, elle sera elle aussi au pied de la croix, comme chacun de nous. Mmh. Et nous, on va fêter nos 25 ans, donc notre jubilé. Et c'est aussi c'est un peu un cadeau que nous recevons du Christ, ces 25 ans.
Cette fidélité.
Voilà, mmh. Exactement. Et un cadeau que nous lui faisons, parce que ces 25 ans... Nous lui offrons en lui disant, tu vois, on a tenu 25 ans avec toi en fidélité, et quelle joie.
Mmh, oui.
Quelle joie.
Frère Christophe, vous nous avez parlé au début de cette émission, dans la première partie, de votre engagement en tant qu'aumônier de prison. Comment le mystère de la croix glorieuse éclaire votre apostolat, peut-être de façon personnelle?
Oui, ben... Justement, qu'est-ce que j'allais dire, ça m'a éclairé sur beaucoup de choses personnellement, donc ce ministère à la prison, et justement par rapport à la compassion, hein, parce que le mystère de la croix glorieuse, au fond, nous prouve d'abord justement la compassion de Dieu, la compassion du Christ pour l'homme qui souffre, hein, quelle que soit sa souffrance, et même quand justement pour les souffrances qui sont causées par son péché, et que donc ça n'est pas d'abord un regard de, ça n'est d'ailleurs surtout pas un regard de jugement qu'il pose, mais un regard de compassion sur tout homme qui souffre. Et ça a été une expérience très forte pour moi dans ce ministère à la prison, parce que là-bas, au fond, tout le monde se juge les uns les autres, hein, parce que chacun réagit, là je parle des personnes détenues, en disant ben, au moins c'est pas grand-chose ce que j'ai fait, mais alors si vous savez ce que l'autre a fait, là, alors là ça c'est vraiment grave et tout ça. Et donc on passe son temps à se juger là-bas, et nous les aumôniers on a l'immense avantage de ne pas savoir ce que ont pu commettre les personnes, et donc de poser un regard qui n'est pas un regard de jugement. Et au fond, de poser ce regard, voilà, et ça change tout. Et on voit les personnes qui, petit à petit, se confient. Et je dirais même plus, là, en tant que prêtre, je parle, où le Seigneur m'émerveille, c'est que, justement, il y a des moments dans le ministère, on est comme traversé de l'amour, de compassion du Seigneur pour la personne qui est avec nous. Et ça, c'est indescriptible, voilà, c'est de l'ordre de l'expérience. Et donc, quelquefois, je me souviens d'une fois où j'étais tenté de juger la personne en face, et c'est comme si je leur avais dit, mais enfin, moi je l'aime. Moi je l'aime. Voilà. Et donc, il y a cette compassion dont on fait l'expérience, et je crois que, et donc, ça m'aide à comprendre aussi qu'au fond, la mission, hein, parce que on est tous appelés à être disciples missionnaires, et que la mission ne peut être vraie que si elle est œuvre de compassion. Hein, ce n'est pas un slogan comme un autre, il faut être missionnaire et puis annoncer Jésus partout. C'est parce que je partage, je reçois cet amour de compassion du Seigneur qui n'en peut plus de voir ces personnes souffrir par le manque de sens de leur vie, à cause de la dureté des cœurs entretenus par la dureté de la vie, et puis cette espèce d'égoïsme qu'évoquaient Muriel et Christophe tout à l'heure, enfin la maladie de nos sociétés occidentales. Hein. Mais donc il ne s'agit pas de juger en disant vraiment vous êtes à côté de la plaque et tout ça, mais c'est de partager au fond, enfin d'accueillir l'amour de compassion du Seigneur pour ces personnes. Et de prier, effectivement, donc ça fait partie de notre mission aussi, et de manière à ce que ce soit une œuvre d'amour, la mission, et surtout que ce soit l'œuvre du Christ, et pas mon petit truc, et puis, voilà. Donc, la compassion, c'est l'expérience que je fais en prison, puis aussi l'expérience que, au fond, ben, le Christ nous a tout donné. Hein, et je pense au mot de la petite Thérèse, aimer c'est tout donner, se donner soi-même. Hein, ben, c'est ce que Jésus fait sur la croix. Et je reviens aussi à ce que disait Muriel, que donc pour la croix glorieuse, il y a l'importance de la place de la Vierge Marie. Et justement, dans Jean 19, 25, 37, ce grand passage, quand Jésus donne tout, il donne aussi sa mère. Et donc il nous donne sa parole, il nous donne son Esprit Saint, il nous donne sa mère sur la croix. Et je dis cela parce que justement à la prison, ils sont très sensibles à cette mère. Je pense aussi bien homme que femme. Hein.
Elle est
Et
l'auxiliatrice. Hein.
elle a une place très importante. Et parce que justement, c'est la maman qui compatit, mais c'est aussi c'est une vraie mère. Et elle souhaite que ses enfants vivent debout, et elle joue un rôle très très important dans ce travail de redressement, de relèvement, et j'allais dire pour nous aussi, membres de la communauté de la Croix Glorieuse, comme pour tout chrétien. Alors nous vivons sous la forme d'une alliance avec elle en tant que membre de la communauté de la Croix Glorieuse, mais elle nous aide à découvrir, j'allais dire, comme des choses du cœur de Dieu, qu'elle seule connaît et puis fait connaître à ses enfants. Donc il y a toute une dimension et j'allais dire presque charnelle aussi, enfin de l'ordre de la tendresse, de l'ordre, voilà, et pas des choses qu'elle nous fait découvrir, ben justement de la tendresse de Dieu aussi. Et au fond, la croix glorieuse, c'est aussi, au fond, c'est la victoire de l'amour, c'est le triomphe de l'amour. C'est pour ça qu'on est si heureux de la fêter. Ça veut dire que, ça y est, on célèbre dans l'espérance la victoire de l'amour, mais la foi nous fait vraiment réaliser que, ça y est, il a remporté la victoire sur la croix. Et donc, voilà, donc tu nous as tout donné, tu nous donnes tout au présent, puisque je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous dit le Seigneur. Nous bénéficions chaque jour de sa parole, de son Esprit Saint, de l'accompagnement de la Vierge Marie. Ça met dans la joie et puis surtout dans la paix et dans la confiance. Et je crois que au moment que nous vivons de l'histoire des hommes, où ce n'est pas la gloire, je crois que quel changement quand on sait que on peut poser un autre regard. On peut oser un regard d'espérance. On peut oser un regard de confiance sur les personnes aussi et ne pas être dans cette toujours dans ce regard soupçonneux et méfiant hein, qui semble triompher aujourd'hui. Et effectivement, donc la croix glorieuse nous permet de enfin, le Christ dans ce mystère de changer ce regard.
Compassion,
Donc voilà
regard
tout ce que je
d'espérance. Christophe et Muriel Sandrin, vous êtes engagés dans l'évangélisation, la formation, le soin des pauvres. Comment la croix glorieuse colore-t-elle vos différents apostolats? Muriel?
Alors, pour moi, la croix glo enfin, le mystère de la croix glorieuse colore ma vie entière et mon quotidien. Voilà. Parce que je reviendrai sur ce que vient de dire Frère Christophe, sur le regard. En fait, je pose sur les gens que je rencontre un regard qui en tous les cas, c'est comme ça que je le veux, un regard qui ne pose pas de jugement. Un regard qui est le regard du Christ, c'est-à-dire quand Dieu nous regarde, il ne pose pas de regard de jugement sur nous. Il pose sur nous un regard d'espérance, il pose parfois un regard de tristesse, mais jamais un regard de jugement. En tous les cas, quand on lit l'Évangile, on voit bien, il détourne son regard quand on veut qu'il pose un jugement, il détourne son regard pour ne pas juger. Eh bien, moi aussi, ce mystère de la croix glorieuse m'a appris à ne pas poser de jugement. Je rencontre beaucoup, beaucoup de gens de toutes sortes, puisque j'œuvre au niveau de Saint-Vincent de Paul, et donc je rencontre la misère du monde à nos portes.
La pauvreté, la solitude. Hein.
La pauvreté, la solitude, et tout ce que entraîne ces deux choses qui est la déchéance, le manque de la personne n'a plus l'impression d'avoir de la valeur et donc se laisse aller, enfin tout ce que enfin, on peut additionner et le fait de ne pas porter de regard de jugement, le fait de porter un regard d'espérance sur toute situation. Moi, je vis en effet comme Christophe, frère Christophe, des gens qui se relèvent. C'est-à-dire des gens qui changent, des gens qui prennent en main leur vie dans des situations incroyables. Et je pense que le mystère de la croix glorieuse qui me fait prendre conscience de ma petitesse, de mon impuissance, parce que face à la croix, je suis totalement impuissante, je n'ai rien à donner en fait. Hein. Eh bien, face à la pauvreté, cette impuissance que je sens aussi, parce que je ne peux pas résoudre les problèmes, ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi qui peux les
Vous êtes
résoudre.
juste l'instrument du Seigneur.
Exactement. Mais par exemple, un regard d'espérance permet à des gens de se relever, à des gens de reprendre leur vie, à des gens de savoir qu'il y a cet endroit où ils trouvent la paix. Et ça, c'est en fait, c'est le mystère de la croix glorieuse.
Christophe, Sandrin.
Oui, j'ai donc travaillé dans l'enseignement pendant une trentaine d'années. Jamais je n'ai désespéré d'un jeune. J'ai fini chef d'établissement, j'ai présidé des conseils de discipline. C'est des moments difficiles dans lesquels un jeune, plus personne ne croit dans un jeune. Et il m'est arrivé de prononcer des exclusions en disant, genre, nous ne pouvons pas continuer de te conduire. Mais d'abord, jamais sans proposer une autre porte. Et puis, jamais en me disant, il est fichu, il n'a pas d'avenir. Non, toujours. Je savais que derrière la difficulté qui pouvait passer, il y avait une issue positive, favorable. Et j'essayais, enfin mon but premier, c'était d'essayer de lui indiquer et de le convaincre qui pouvaient y arriver. De même, j'ai enseigné les mathématiques. Dieu sait si dans les mathématiques, des élèves sont en difficulté, sans aucune raison, que leur propre conviction intime qu'ils n'y arriveront pas.
Oui.
Ce qui est une erreur. Mais je me suis un peu éloigné de la croix.
Oui, il va falloir conclure, oui.
Dans notre charge aussi de parents, Muriel et moi, avec nos enfants, nous n'avons jamais désespéré de ce qu'ils pouvaient devenir. Et au résultat, le résultat est là, parce qu'ils sont maintenant adultes. Mais même si on ne comprend pas forcément le chemin qu'ils vont prendre, on sait que c'est la gloire au bout, quoi. La gloire au sens spirituel. Ils sont pas des piliers d'église, je veux dire, de ce côté-là, on n'a peut-être pas réussi tout ce qu'on aurait voulu, mais ce que nous aurions voulu, en fait, la graine est semée, et nous sommes certains, tous les deux, que ce que nous avons pu semer là germera un jour, c'est certain. Puisque quand même, la gloire, c'est toujours la croix. Il n'y a pas de doute.
Voilà, ce sera le mot de conclusion. La gloire, c'est toujours la croix. Merci, frère Christophe, en direct de votre couvent de Perpignan. Merci, Christophe et Muriel Sandrin. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fête de la croix glorieuse.
Merci beaucoup.
Merci, Isabelle.